RMC, face aux grandes gueules.
C'est le commandant Septi Kadimala, porte-parole de la sécurité civile. Bonjour.
Bonjour.
Faisons le point avec vous tout d'abord sur ce qui se passe en Gironde, avec un feu particulièrement virulent qui s'est déclaré. On est au nord du bassin d'Arcachon. Il a parcouru plus de 2400 hectares en quelques heures. Il n'est toujours pas maîtrisé.
En effet, au moment où je vous parle, le feu n'est pas fixé, ce qui veut dire qu'il y a encore une propagation potentielle qui peut menacer notamment des points sensibles, à savoir des habitations et des lieux de vie. Hein. On est d'ailleurs sur un front de flamme qui se rapproche de l'aigle, ce qui fait que forcément, l'enjeu au moment où je vous parle, c'est vraiment de préserver les populations, de réfléchir soit à les confiner, soit à les évacuer. Ça sera les enjeux des prochaines heures.
On en a évacué beaucoup déjà, je crois qu'il y a 12 000 personnes, exactement, des touristes, la plupart, exactement, qui ont été évacués de camping.
Fait, ce qu'il faut retenir sur ce terrain-là, c'est que en fonction de la situation, en fonction de la profondeur de propagation, on va soit pouvoir les confiner parce qu'on considère que leur lieu de vie peut protéger et laisser passer le passage des fumées notamment, ou alors on va précipiter une évacuation avec un cheminement sécurisé par les autorités vers un lieu d'accueil des personnes dans le cadre des mécanismes de protection communale.
Quelle est la difficulté sur ce feu-là? C'est du pin?
C'est du pin, c'est de la forêt de pin vieille, enfin jeune, justement moins de 20 ans. Donc en fait, on est déjà sur des grandes cimes qui vont générer un important volume d'énergie. Ce sont des cimes d'arbres qui vont donc s'enflammer, nous contraindre nous dans nos missions d'extinction, parce que éteindre des forêts de pins, c'est pas éteindre un feu d'herbe basse.
C'est un peu similaire à ce qui s'est passé à Fontainebleau.
Dans une certaine mesure, oui, puisqu'on est quand même sur un massif arboristique qui est quand même conséquent, et pour lequel déjà il faudrait conjuguer une difficulté d'accès, une énergie qui va rendre difficile notre progression, une enveloppe de flammes et une enveloppe de feu qui prend une envergure de plus de 2000 hectares. Donc c'est aussi des enjeux de pouvoir projeter l'ensemble de nos personnels afin d'envelopper et du coup de couper la propagation de cet incendie.
Et la presqu'île du Cap Ferret est inaccessible toujours. Hein.
Ça c'est un réel enjeu aussi. On n'est pas sur un massif forestier qui est isolé de tout tiers. On est sur un centre stratégique de la Gironde pour lequel il va falloir rapidement contenir ce feu pour ensuite travailler sur son intensité, mais surtout préserver les populations et les animaux qui sont les premières victimes de ce type d'incendie.
Des Canadairs sont mobilisés?
Deux. À 9h30, selon les derniers éléments qui m'ont été rapportés, deux Canadairs ont été projetés en complément des autres moyens aériens, puisqu'on a des hélicoptères bombardiers d'eau, on a aussi d'autres avions qui sont prépositionnés. Juste cet été, pour vous dire, dans le cadre de notre stratégie nationale, nous avons déjà un Dash et deux autres moyens aériens qui sont à disposition, prépositionnés sur l'ensemble de cette période estivale.
La France fait face au feu parce qu'il y a la Gironde, il y a le Var, mais il y a des incendies un peu partout. Hein. On n'en parle pas forcément, mais dans le sud, mais aussi en Bretagne, dans le Morbihan hier. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour faire face à ce défi cet été, particulièrement ces incendies qui se déclarent sur tout le territoire?
Pour répondre à votre question, je vais faire d'abord nos opportunités et nos menaces. L'opportunité, c'est qu'on a une réelle profondeur opérationnelle. Nos moyens peuvent à la fois secourir départementaux qui eux seront les premiers intervenants et qui vont pouvoir absorber cette première pression opérationnelle. On aura ensuite les moyens nationaux, la brigade des militaires de la sécurité civile. On a aussi des renforts d'autres départements qui vont pouvoir venir épauler nos collègues directement sur le terrain. Et puis on a en troisième stade la coopération européenne. Ça c'est notre force. On a aussi un mécanisme d'anticipation où désormais depuis quelques années, depuis même 2023, fort de cette virulence des incendies et de ces incendies hors normes qui commencent à apparaître, je précise, la Gironde n'est pas un incendie hors norme pour le moment.
Non, pas pour l'instant.
Mais par contre, on en a connu depuis 2022. On a commencé à réfléchir, à repenser notre stratégie de lutte contre les feux de forêt, à prépositionner des moyens dans les différents endroits qui sont considérés comme vulnérables. On travaille en circuit court avec Météo France, pour lequel maintenant on organise des guets aériens armés, ce sont des patrouilles aériennes, pour vous dire, où on va pouvoir organiser une attaque massive précoce du feu. Maintenant, notre vulnérabilité, c'est quoi? C'est que depuis maintenant le 18 juin, entre les canicules et l'éclosion de ces nombreux incendies, nos pompiers sont fatigués. Ouais. Nos pompiers professionnels sont fatigués, nos pompiers volontaires sont fatigués, et il faut bien comprendre que la lutte contre le feu de forêt doit se déciloter uniquement des moyens. Ce n'est pas parce qu'on achètera 100 Canadairs ou c'est parce qu'on recrutera 10 000 hommes.
Il y a les hommes.
Il y a les hommes, mais il y a surtout la prévention. On est face à des feux qui sont conséquents, multiples sur l'ensemble du territoire national. On ne pourra jamais, à un moment donné, avoir suffisamment de moyens pour absorber une charge, une telle charge qui va continuer à augmenter. Il faut aussi que le citoyen devienne ce premier pompier de France.
Ouais, le pompier de France, c'est donc le citoyen qui doit débroussailler chez lui.
Oui.
Qui doit arrêter avec ses gestes complètement dingues, jeter le mégot, faire un barbecue au moment où on lui dit pas d'arrêter d'en faire, la randonnée dans un massif qui est fermé.
Bah exactement, le mégot de cigarette, juste le mégot de cigarette, quand on le jette, dès qu'il y a un vent supérieur à 5 km/h, le mégot peut se déplacer et peut toucher une végétation. La végétation, elle peut commencer à s'enflammer à partir de 150 degrés. La mèche de la cigarette, ça génère déjà 400 degrés. L'équation est simple. À partir du moment, on n'a pas besoin d'énormément de conditions pour provoquer un incendie. Un mégot bien positionné peut provoquer ce type d'incendie. Et puis malheureusement aussi, on a des personnes mais qui n'ont peut-être pas forcément la conscience du risque que ça peut occasionner, mais font encore des barbecues dans des zones qui sont interdites.
Mais j'ai entendu le préfet du Var dire pas de barbecue aujourd'hui.
Bien sûr, et d'ailleurs le préfet du Var qui avait pris des mesures de sanctuarisation des massifs forestiers dès le début de la semaine. Pourquoi ? Parce que le risque était imminent.
Oui, mais on a vu des gens se balader dans ces massifs.
C'est pour ça. Finalement, et ça répond à votre question, parce que nos moyens sont préparés à absorber une situation qui est exceptionnelle.
Mais il va falloir que les citoyens s'y mettent aussi. Quoi.
Exactement.
Pas toujours attendre tout du pompier, la force publique.
Parce qu'au-delà du risque feu de forêt, on a la pression opérationnelle touristique. On est sur des départements du sud qui drainent énormément de population et pour lequel il y a aussi forcément plus d'accidentologie.
Bruno Poncet, Charles Consigny.
Moi, je voudrais déjà profiter de la présence du commandant pour rendre hommage et dire merci à tous les pompiers qui sont engagés. Et malheureusement, tous les ans, nous, on a le droit. On débat tous ici, donc on est à la bonne place. Mais tous les ans, on débat de la même chose.
On rappeler qu'il y a deux sapeurs-pompiers qui sont morts en Gironde.
Et un troisième qui est décédé dans un éboulement la semaine dernière.
Des gars super.
Et en fait, nous, on pose toujours la même question. C'est comment nous, quand on vous voit arriver, on sait que c'est pas bon signe quand vous êtes à côté de nous. Mais comment on peut faire pendant les 8-9 mois où il n'y a pas d'incendie pour aller conscientiser plus le Français et donc les enfants en premier, parce qu'il faut commencer par eux. Et puis après, aller voir aussi les adultes. Vous dites le jeter de mégot, mais qui dans sa tête peut se dire qu'un mégot qui va mettre je sais pas combien de centaines d'années à être éliminé peut jeter ça dans la rue aujourd'hui? On est en 2026, ça fait des années qu'on dit qu'il faut pas le faire. Et donc nous on se dit qu'il y a pas-t-il un moyen pédagogique, sociologique, mais pour aller voir les gens, leur dire bah voilà, à un moment donné éduquons-les quoi. Mais quelqu'un qui, enfin un adulte comme nous là, moi j'ai 50 piges, Barbara dans mes
yeux,
enfin nous à un moment donné, mais c'est vrai,
on est
jeune.
Plus jeune, on n'est pas la même génération.
Voilà. Mais c'est vrai que nous on entend ça depuis des années et on est quand même assez conscient pour faire ce genre de choses, mais aujourd'hui on voit encore des choses. Nous, dans la rue à Paris, vous voyez bien, enfin, vous habitez aussi en région parisienne, dans la rue, on voit des gens encore jeter des trucs dans la rue, mais c'est dingue en fait. Nous, on se demande,
c'est
comment
un peu
faire
l'égoïsme aussi. Hein.
Vous ciblez la parfaite vulnérabilité de ce dispositif, c'est qu'on sous-estime encore trop le risque et on sous-estime nos pratiques et les effets que nos pratiques peuvent avoir sur l'environnement et sur les départs d'incendie. Je vous parlais des mégots de cigarettes, mais finalement, même faire du bricolage dans une zone verte, dans une zone où en fait on a même du gazon ou un espace boisé, bah forcément, si on manipule des outils qui génèrent une source de chaleur, dans un contexte climatique qui est dégradé, puisqu'on est quand même sur une sécheresse confirmée, on a ça. Mais vous l'avez très bien dit, en fait, cette démarche de prévention, elle ne se fait pas et elle ne doit pas, surtout pas se faire uniquement au mois de juin, juillet. Elle doit se faire au quotidien. C'est finalement un mécanisme de résilience nationale, un mécanisme de résilience où on doit apprendre dès le plus jeune âge, au quotidien, que maintenant, pour protéger son territoire, pour protéger des vies, il faut apprendre à apprendre les bonnes pratiques, finalement.
Et est-ce qu'on pourrait pas progresser un peu sur le plan de la technologie, quand même ? C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, mais surveiller avec des drones, ou même envoyer des drones pour éteindre les débuts d'incendie, surveiller tout ça par satellite, par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va pas se passer longtemps avant qu'en Chine, les forêts soit surveillé et protégé entièrement par des robots, envoyer des robots terrestres. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on pourrait pas quand même investir un peu aussi sur ce plan-là ?
Alors, vous prenez l'exemple de la Chine. D'ailleurs, la Chine a commencé à réfléchir à la mise en œuvre de drones extincteurs, avec justement sur des feux, notamment des immeubles de grande hauteur.
Des drones extincteurs.
Voilà. La seule problématique, c'est que pour le moment, la technologie drone, en fait, n'est pas forcément encore adaptée au processus d'extinction que nécessite en fait un feu bâtimentaire, feu de forêt. Au moment où on se parle, et vous avez tout à fait raison de le pointer, il y a un réel sujet et l'école d'application de la sécurité civile, donc à Valabre, mais aussi au sein de la direction générale, nous avons des bureaux liés à l'innovation qui travaillent désormais sur tout ce qui est nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies sont nos amis en fait. On parle de l'IA, on l'utilise toutes et tous au quotidien. L'IA va devenir aussi notre collègue. Ça va être un mécanisme qui permettra de détecter plus rapidement via de l'IA des sources de chaleur. Lorsque vous voyez sur les guets, donc ces tours que vous avez dans les forêts, on réfléchit d'ores et déjà à faire de la détection automatique via de l'intelligence artificielle pour rapidement en fait pouvoir employer les moyens.
Mais est-ce qu'on va investir dans des drones par exemple ?
Des drones, au moment où on se parle, dans énormément de départements et de plus en plus.
Il y en a.
Le vrai sujet maintenant, c'est la réglementation drone. Il faut que cette réglementation réglementation continue à s'adapter à nos besoins de sapeurs-pompiers, puisque que vous connaissez bien, c'est un corpus de loi qui doit s'adapter désormais à ce nouvel emploi des drones, parce que les drones étaient d'abord sur du loisir. Les sapeurs-pompiers se sont rendus compte que, en fait, projeter rapidement un moyen sans pilote, assez souple, sur une zone d'intervention permettant de visualiser, c'est réellement une vraie plus-value. Je vous le dis, même en région parisienne, sur des feux d'entrepôt, le drone, c'est un élément stratégique. Ça nous permet de rediriger nos feux d'extinction, ça nous permet d'identifier si nos moyens sont bien répartis sur l'ensemble de la zone. Donc, en effet, l'innovation, c'est un sujet. On doit prendre le pas, et c'est un pas qui a déjà été pris, puisqu'on a maintenant même un bureau sur l'innovation pour justement utiliser d'autres outils qui sont du quotidien à notre profit.
Mais la question, avez-vous les moyens financiers pour aller au bout de ces innovations? Parce que des chercheurs en France, des cerveaux en France, on en a beaucoup. Mais ensuite, c'est la réalisation industrielle, la mise en œuvre technologique et concrète, matérielle, la production de nos innovations et de notre génie qui pose problème. Donc, avez-vous l'assurance que tous vos ingénieurs, etc., qui travaillent sur de nouveaux outils, vont bénéficier de suffisamment de soutien? Parce que vous êtes la sécurité civile, donc vous êtes lié à l'État. Est-ce que des budgets sont spécifiquement alloués à la recherche et à la production de nouvelles technologies, ou bien est-ce que finalement on sera amené à acheter chinois ou américain ou australien?
Dans le cadre de ces innovations-là, on est sur un projet qui est plus, le budget qui est alloué à la sécurité civile est bien plus large que uniquement les innovations, et en effet vous avez des postes de dépenses qui sont attribués à chaque thématique. Depuis 2022 et le pacte capacitaire qui a été pris par le président de la République le 28 octobre 2022, il y a eu un engagement déjà de 150 millions d'euros qui ont été donnés par l'État, plus les 100 millions des collectivités territoriales, pour déjà nous renforcer sur nos moyens. Donc on est à l'horizon 2028 sur 1048 engins qui vont venir renforcer notre parc, ainsi que l'augmentation de nombreuses colonnes de renfort qui vont constituer cette réponse. Pour répondre spécifiquement à votre question, dans cette démarche-là, le ministère et la politique a pris conscience de ce risque, qu'il va falloir adapter nos différents moyens aux nouveaux risques avec de la nouvelle technologie, et pour lequel on voit émerger des financements qui vont nous permettre, aussi à l'échelle européenne, de continuer à rechercher, trouver des technologies qui vont nous permettre d'optimiser nos actions.
Alors, on va écouter Hervé qui nous appelle au 3216, qui est également sapeur-pompier. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Et vous nous appelez de Mérignac, en Gironde, là où Absolument. S'est déclaré cette semaine un incendie près de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Et vous dites que les pompiers sont fatigués parce que souvent on leur demande de faire des missions qui ne sont pas toujours des missions premières, c'est ça?
Oui, c'est surtout ça, en fait. Aujourd'hui, le pompier, en fait, allé au feu, c'est sa mission première. Sauf que le pompier qui va au feu aujourd'hui, hier ou lors de la prochaine garde, il sera affecté à toutes sortes de missions, mais des missions qui ne sont pas les missions premières des sapeurs-pompiers.
Quoi, par exemple?
On peut aller à la demande du SAMU, aller chercher quelqu'un chez lui pour l'amener à l'hôpital, pour de la bobologie, par carence, on va appeler ça par carence, ou des fois même par urgence, mais qui n'est pas du tout de l'urgence, hein. Et ces pompiers-là, ils vont à l'hôpital. On a des temps d'attente de 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8 heures d'attente à l'hôpital.
Ah oui.
Et voilà, ce pompier-là, en fait, il est utilisé à tout et n'importe quoi aujourd'hui.
Donc, quand réorienter les pompiers vers les urgences, c'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est pas la mission première des pompiers.
D'ailleurs, Hervé, en fait, vous avez été longtemps en grève, tout en travaillant, évidemment, hein, avec le panneau. Moi, je me rappelle très bien, pendant ça a duré au moins 2 ans, hein, les grèves des pompiers, où il y avait le panneau en grève sur les... Ça, vous avez réussi à obtenir quelque chose ou rien?
Rien du tout.
Ils étaient venus manifester à Paris, ils s'étaient fait dérouiller par les CRS. Ouais. Ça, on n'a pas oublié les images, en fait.
Je dirais pas ça, mais en fait, on n'est pas du tout écouté.
Moi, je m'en rappelle très bien.
On n'est pas du tout écouté. On n'est pas catégorié comme un métier dangereux. Hein. Il suffit de regarder de l'actualité aujourd'hui pour voir que c'est quand même pas un métier anodin. Aujourd'hui, c'est le ras-le-bol.
Il faudrait peut-être recentrer la mission des pompiers. Yeah.
C'est ce que l'on demande depuis tout le temps, en fait.
Alors, Septi, vous vouliez réagir?
Oui, il a tout à fait raison sur un sujet, c'est que nos sapeurs-pompiers, au moment où on se parle, en fait, ne sont pas uniquement employés sur de l'incendie. Et en fait, la force qu'on a, les sapeurs-pompiers, c'est que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, quand vous avez un malaise, que vous ne vous sentez pas bien et que d'autres services ne peuvent pas venir vous secourir, on appuie sur un bouton et vous avez un véhicule de rouge qui va venir porter assistance. C'est notre force, c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé, mais là où je rejoins Hervé, c'est qu'en effet, ce ne sont pas nos missions premières. Nos missions premières à nous, c'est la lutte contre l'incendie. La lutte contre l'incendie, c'est la mission exclusive des sapeurs-pompiers. Nous avons maintenant les secours et soins d'urgence aux personnes qui sont des missions aussi vitales pour les personnes, puisqu'on part sur des personnes qui sont en arrêt cardio-respiratoire et pour lesquelles il faut qu'on puisse porter assistance. C'est plus de 80% de nos interventions. Mais on a, et c'est constaté, c'est d'ailleurs pour ça que il y a des réflexions sur le Beauvau de la sécurité civile, sur des lois de modernisation de nos actions, pour justement tenter de cantonner un petit peu nos missions à ce qui doit être vital, permettant ainsi de nous engager uniquement sur les missions où on sera stratégique.
Il faut redéfinir tout ça, d'autant plus si effectivement ces étés se multiplient avec des incendies un peu partout à gérer. Merci commandant Septi Kalimala d'avoir été avec nous. Une dernière question sur l'incendie du Var.
Oui.
Il y a une grande crainte aujourd'hui, c'est le retour du Mistral. Est-ce qu'on peut faire un point?
Alors, la crainte, elle est totalement justifiée. Le Mistral, c'est un vent qui est chaud, donc qui ne va pas contribuer au refroidissement d'atmosphère et qui va du coup potentiellement ressouffler sur des braises, ressouffler, réactiver des points chauds qui étaient déjà suffisamment virulents. Dans ces conditions, tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de surveiller ce feu, de le maintenir dans son enveloppe.
Parce qu'il est contenu le feu, mais il y a des reprises de feu, on l'a vu hier.
Exactement. Et il subsiste des difficultés sur différents flancs pour lesquels il faudra être vigilant. Mais au moment où on se parle, c'est la journée la plus vulnérable, sur laquelle on est les plus vigilants sur le risque feu de forêt.
Merci, commandant, d'être venu à la table des grandes gueules et bon courage pour la suite. Vous.
Merci à vous.
Et
merci
à ceux qui sont engagés pour combattre le feu un peu partout et notamment en Gironde en ce moment.